regarder qui pénètre ces lieux, je risquerai d'apprendre les secrets que je ne dois pas connaître.
Dans Le Secret des Dieux, épisode 59, on s'intéresse pour ce nouvel entretien à un illustrateur au style et au caractère bien trempé qui a accompagné au début des années 90 la déferlante black metal qui allait envahir le monde en rejoignant le petit cercle d'artistes ayant les premiers mis en image cette musique si particulière. Dans cette première partie, le talentueux David Thiré, puisqu'il s'agit de mon invité, nous explique ce qui l'inspire et les prémices de son parcours et de sa courte carrière musicale, l'occasion de s'interroger également sur ce qu'est réellement un artiste. Bonne écoute à tous, vous êtes dans Le Secret des Dieux. Si le nom de Derek Riggs reste associé pour toujours à celui de Iron Maiden, si celui de Joe Petagno l'est avec Motorhead, celui de Ed Repka avec Megadeth et une partie de la scène thrash et death metal américaine, Larry Carroll avec Slayer, Dan Seagrave avec les pionniers du Swedish Death, David Thiré est lui avec quelques autres noms tout aussi incontournables, hein. Je peux citer Necrolord, Christophe Spagedel, associé à la scène black metal, notamment celle qui cherche à travers ses visuels à conserver jalousement les purs originels du black, à savoir des scènes ésotérico-mystiques, en noir et blanc de préférence, chargées de culture, de folklore, de contes et légendes de l'Europe, évidemment du Nord en particulier, de référence, de symbolisme, et même revêtu d'une aura éthérée. Alors vous l'avez compris, David Thiré, illustrateur, est mon invité. David, je te souhaite la bienvenue et le bonjour.
Bien le bonjour.
Alors moi je t'avoue une chose avant de commencer, David, c'est que je suis toujours très admiratif et aussi un petit peu jaloux des gens qui savent dessiner à plus forte raison quand ils ont un niveau d'excellence qui leur permette d'en vivre. Alors, je sais que ça n'a pas toujours été ton cas. Et moi, en fait, c'est en grande partie lié au fait que je suis incapable de dessiner quoi que ce soit de correct. Mais j'aurais adoré en être capable. Donc, bon, voilà, chacun son truc, j'imagine. Mais je voulais te dire ça. Donc, si tu sens des pointes de jalousie dans mes questions, ne m'en veux pas, s'il te plaît.
Ah non, je ne t'en veux absolument pas. Je suis jaloux des gens qui arrivent à jouer d'un instrument, hein, de toute façon. Donc, c'est ma façon à moi aussi d'être dans l'industrie musicale, hein, en tant que fan de cette musique à la base. Et puis après, il a fallu que je mette un pied dedans. Bon, après, il y a beaucoup de des producteurs, par exemple, de musique, qui sont pas de musiciens. Et...
Oui, il y a plusieurs manières d'être investi dans la scène.
Voilà, les petits rats qui n'ont jamais été danseuses étoiles, qui deviennent profs de danse, les acteurs ratés qui deviennent directeurs de théâtre. Voilà. Et donc, comme j'ai pas pu vraiment faire carrière dans la musique, il fallait que je trouve un moyen de rester dans le business. Enfin, bon, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais il y a un petit peu de ça, quelque part.
Alors, on y reviendra parce qu'on va faire un petit peu ta bio. Là, j'ai évoqué quelques noms d'artistes qui sont quand même bien connus dans la scène métal. J'imagine que tu connais leur travail. Est-ce que tu as un avis sur eux?
Ouais, il y en a un ou deux. Après, je vais dire du mal, je ne vais pas être gentil. Donc, mais sinon, la plupart, j'ai beaucoup de respect pour leur travail. T'as pas cité Christophe Moyen?
Non, je l'ai pas cité, mais effectivement, j'aurais pu.
Ah bah voilà, au lieu de Spagel, t'aurais dû dire Moyen.
Pourquoi?
Parce que Christophe Moyen, c'est un illustrateur, et Spagel, c'est un gars qui dessine des logos. Bon, du coup, enfin, au niveau de l'impact, de l'importance aussi, au niveau historique, je pense, enfin, moi, Christophe Moyen passait avant Christophe Spagel. Oui, à part Necrolord, je crois qu'il y a que... au niveau du respect dû aux gens qui travaillent dedans, enfin, que ce soit Repka, enfin, j'ai pochette de Def et ce genre de choses qu'il a fait. Ouais, Necrolord, ouais, j'ai beaucoup bavé sur la pochette de Dissection et surtout celle de In the Nights at Eclipse.
Évidemment.
Et je crois que ouais, ça allait tellement bien avec la musique, enfin avec l'idée que je me... Enfin, les visions que j'avais quand j'ai tout écouté l'album de Emperor, cette pochette-là, elle allait tellement bien. Ça n'a pas été réellement une inspiration graphique, mais l'envie de produire ce type de d'ambiance, quoi. Mais même si en fait je suis parti dans une direction assez différente. Et il y a aussi Dan Seagrave aussi qui est si tu l'as cité lui.
Donc lui tu aimes son travail.
Gros respect oui pour Dan Seagrave. Je crois que de tous hein, entre de tous ouais c'est Dan Seagrave. Comment dire, il sort du rang en fait. Et c'est quelqu'un qui est quasiment dans l'art visionnaire en fait. C'est quelqu'un qui a plus de galons en fait, ou qui a possibilité de plus en avoir. Je pense qu'il devrait être, il devrait faire de l'art visionnaire, même si l'art visionnaire perd ses fans, enfin ses amateurs et ses collectionneurs qui rentrent en EHPAD ou qui passent l'arme à gauche tous les jours, parce que c'est un genre moribond, on va dire. Mais vraiment, grosso modo, il dépasse en fait, il passe dépasse le cadre des autres. Et c'est quelqu'un qui gagne à être connu en dehors du domaine du métal.
Oui, il dépasse le simple cadre de la représentation graphique de ce que doit être le métal extrême.
Ouais, il mériterait d'avoir des expositions et d'être vu par des gens qui ne connaissent absolument pas son travail par ailleurs. Parce qu'il a une qualité de peinture, il a une vision, enfin, il a... Ça va beaucoup plus loin, en fait, que les autres. Moi y compris. Oula.
Tu as rajouté un nom qui était celui de Chris Moyen. Est-ce que tu as d'autres noms, en fait, d'artistes comme ça qui ont opéré soit comme illustrateur d'artwork, soit autrement, et qui, en fait, te faisaient un peu, entre guillemets, rêver, qui te donnaient envie de le faire à ton tour
quitter le scène, évidemment. Bon, à son corps défendant, hein, parce qu'évidemment, il a été utilisé... sans autorisation, étant libre de droit, hein, on va dire. Il fait Odor Kittelsen, évidemment, enfin, pour les pochettes de certains groupes. Je ne sais pas si tu veux dire son nom, si tu ne veux pas être démonétisé. Ou... un de certains groupes norvégiens, un peu brûleurs d'église, à ses heures perdues. Et donc,
D'accord, on a compris. Tu peux dire le groupe de Varg, je crois que ça passe.
Ouais, le groupe de Varg, par exemple, bon bah ça c'est je trouvais ça totalement fascinant. Mais en dehors de ça, après ça sort du domaine du métal à proprement parler. Ça doit être Ian McKeag pour Jeff Rotul, Broadsword. Ça va être et aussi, je crois que c'est Sabbath, Bloody Sabbath, le mec qui est sur le lit là, avec tout un tas de démons qui l'embêtent, qui lui tirent les draps. Il y a aussi Roger Dean.
Oui, bien sûr, de Yes, fabuleux.
Oui, d'ailleurs, il a un lien avec Metal aussi, parce que c'est Kronos, hein, le bassiste de Venom, qui était graphiste de formation et qui a créé le logo Venom en référence au travail de Roger Dean. Ça, le côté très, très, très rond et sinueux et entremêlé de Venom est un hommage direct à Roger Dean.
Dans un autre domaine, est-ce que le nom de Ralph Bakshi t'évoque quelque chose ?
Oui, c'est, Fritz the Cat... C'est un dessin de Signor Zano, Tigra, Cool World, malheureusement. Réalisateur de dessins animés, ouais.
Je t'en parlais surtout pour le Seigneur des Anneaux, parce qu'il a fait. Il est le premier à avoir fait une animation sur le Seigneur des Anneaux, qui est inachevée d'ailleurs. C'est dommage. Hein.
Ah, c'est pas exactement le premier, pardon, je suis chiant. Non, en fait, c'est les frères Bass. Enfin, non, c'est Rankin et Bass. Enfin, c'est réalisateur, enfin, producteur anglais. Ceux qui ont fait la dernière licorne aussi, et ils avaient fait en 77, ils avaient fait le Hobbit en dessin animé. C'est une coproduction, bah comme pour les dernières licornes, c'est une coproduction anglo-japonaise. Et ils avaient fait donc 77, donc là c'est la première adaptation de Tolkien en dessin animé, c'est 77. Et il y avait deux Seigneurs des Anneaux, après c'est effectivement Ralph Bakshi. Bon, c'est juste pour enculer les mouches, pardon.
Non, mais c'est intéressant, parce que ça montre que tu as quand même une culture autour du Seigneur des Anneaux. Il me semble avoir lu une interview de toi dans laquelle tu fais part de ton intérêt, de ton amour, en fait, pour le Seigneur des Anneaux. Et je ne trouve pas ça étonnant, en fait, quand on connaît ton travail, puisque, en fait, il y a des thématiques, notamment du folklore, on va dire, du nord de l'Europe, qui est assez présent. Est-ce que ça peut être le Seigneur des Anneaux un peu à l'origine de ton intérêt pour cette partie-là de la culture picturale qu'on peut retrouver chez toi?
Le Seigneur des Anneaux, en fait, j'ai entendu parler de ça quand le dessin animé de Bakshi est sorti. Parce qu'à l'époque, à la télévision, ils avaient montré des courts reportages, je me souviens, à propos de l'usage du rotoscope qu'ils avaient fait. Il y avait déjà pas mal de rotoscopes dans le dessin animé, mais qui était du rotoscope à la Disney, c'est-à-dire vraiment on filme quelqu'un, ensuite on redessine les cellulos sur la pellicule image par image, et après on a des beaux mouvements fluides et réalistes. Et ils ont fait ça au départ pour le dessin animé, puis au bout d'un moment, enfin, ça a pris tellement de temps et ça leur a coûté un tel pognon qu'ils ont été obligés d'aller de plus en plus vite et pour terminer le dessin animé. Et en fait, ils ont carrément filmé des acteurs et repeint directement les cellulos sur la gueule des acteurs. Du coup, ça c'est devenu c'est sympathique parce que ça donne un côté très une espèce de graphisme un peu étrange qui devient maintenant depuis quelques années un peu culte, parce que je crois qu'il y a The Sword, le groupe de heavy metal, qui a repris cette esthétique dans un de ses clips. Il y a la pochette du dernier album de Conan, du groupe de Stoner, là, qui a repris, enfin l'illustrateur, très très belle pochette d'ailleurs, je ne sais plus le nom de cet album, mais j'aime beaucoup ce dessin, et l'artiste a repris le même type de graphisme. Il y a une pochette aussi de Iron Fire qui, je crois que c'est Fuse quelque chose, je sais plus le nom de l'album, et c'est pareil, l'esthétique est reprise exactement. Et en fait, ils repeignaient les cellulos pour gagner du temps, et donc ça a donné toutes ces scènes assez étranges avec sur des fonds un peu stickés, avec des silhouettes noires, avec des yeux rouges, etc. Et bref, le petit documentaire parlait de ce travail qu'ils avaient effectué. Donc c'était en 60... Je sais plus, il y avait un décalage avant, les films sortaient aux États-Unis et des fois ils passaient un an avant qu'ils sortent en France. Donc je sais pas, ça doit être peut-être 79 ou quelque chose comme ça. Et j'ai entendu parler du Seigneur des Anneaux à ce moment-là. Et après, j'ai commencé donc par rapport au film que j'ai pu voir aussi en plus. J'ai la chance de voir ça. J'ai dû acheter des magazines ou des choses comme ça qui en parlaient. Et un peu plus tard, quelques années plus tard, il y avait le jeu de rôle MERP, enfin Middle-earth Role-Playing Game, auquel j'ai pu jouer. Et après, je me suis mis à lire le bouquin, etc. Imaginez que la tête de quelqu'un, en fait, c'est comme une espèce de petite... je l'ai expliqué dans le bouquin, dans mon bouquin d'ailleurs, je le dis dans mon livre. C'est comme une espèce de pièce avec des étagères. Et en fait, tu fais une collection en fait de choses qui te marquent et dans lesquelles tu viens piocher quand tu dois faire quelque chose. Donc, que ce soit de la musique, enfin, quand tu dois créer quelque chose, tu t'en sers comme référence. Tu vas chercher dans ta petite bibliothèque et tu prends un bout de ci, un bout de ça, et tu fais comme des Legos et tu montes. Donc le Seigneur des Anneaux, c'est une étagère dans ma tête avec pas mal de goodies du Seigneur des Anneaux, on va dire. Des souvenirs, des sensations.
Moi, j'ai une métaphore un peu similaire, mais avec de la soupe. Tu vois, dans ta soupe, tu peux mettre des carottes, des poireaux, un oignon, et à la fin, tu as un amalgame de tout ça.
Un petit bout de lard.
Et ça a un goût à part. Ça n'a ni le goût de la carotte, ni le goût du poireau, ni le goût de l'oignon. C'est un truc nouveau, mais c'est nourri de toutes ces influences-là.
C'est ça, oui. C'est des ingrédients.
Pour continuer, juste une petite curiosité en aparté. Ta page Facebook officielle te définit comme un athlète et pas comme un artiste. Alors, je sais que tu t'es déjà expliqué là-dessus. Est-ce que tu peux le refaire pour moi?
Parce que je trouve ça hyper pompeux, en fait, le terme d'artiste. Parce que je ne sais pas ce que je suis. Je considère plus comme un artisan, un facteur de d'image que de réellement un artiste. Je ne sais pas. Le fait d'être artiste, c'est d'avoir quelque chose à dire qui doit être super important. Et donc c'est évidemment très 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 galvaudé comme terme. Il y a des gens qui n'ont pas de talent et qui disent oui, mais j'ai une âme artistique. Ah, j'ai un esprit artistique. Alors, donc et c'est chiant parce que ces gens souvent deviennent DA, bah, directeur artistique. Et c'est un peu comme le problème du petit rat. Ou du mec qui a tenu une lance dans le fond de la scène au théâtre pendant toute sa carrière et puis qui devient prof de théâtre. Et donc là, c'est un petit peu pareil, quoi. Quand t'as un esprit artistique mais t'es pas capable de dessiner une pomme, bah, tu deviens directeur artistique dans une boîte et tu imposes à tout le monde ta vision et ta vision de artistique. Mais enfin voilà, il y a un côté. Je sais pas, le dire je suis artiste, je sais pas, c'est comme il y a quelque chose comme si je disais je suis sourdoué. Il y a quelque chose où je suis sorcière, ou je sais pas.
Le mot ayant été phagocyté par des imposteurs, il a perdu un petit peu sa puissance.
Il y a une différence entre être un artiste et être un fabricant d'images, un illustrateur. Je vais plus facilement employer le terme d'illustrateur.
Ah, je t'ai qualifié d'illustrateur, t'as remarqué.
Ouais, bah c'est parfait. Non, parce que même si, en fait, parce que j'illustre ce qu'on me demande d'illustrer, mais j'illustre aussi ce que j'ai dans la tête. Quand on me demande rien, que je sors un dessin tout seul de ma tête, c'est... voilà, je suis comme Dumbledore avec sa pancine, là, je prends ma baguette, et puis je tire un petit filet de slime, là, et je plaf, je pose sur le papier. Mais je sais pas, après, je vois pas en quoi du domaine de l'artistique, quoi. J'ai vraiment un problème avec ça, hein, c'est difficile à définir. Mais bon, voilà. Pourquoi j'ai mis athlète?
Bon, il n'y a pas illustrateur, hein, donc ça a compliqué les choses.
Ouais, il y avait architecte, je sais plus, homme politique, j'aurais pu mettre n'importe quoi, mais athlète, je trouvais ça rigolo. Bon, bah après, il y a le côté, le travail du crayon aussi, avec mes petits muscles ancillaires qui travaillent à faire des micro-mouvements à longueur de journée. Donc, quelque part, c'est un sport.
Bah, disons que ton point commun avec un athlète, un sportif, c'est le besoin de précision du geste.
Ouais, et de trouver le flow aussi, de faire le vide, et d'arriver dans la zone, comme on dit. C'est-à-dire d'arriver au moment où... voilà, où je peux être en train de téléphoner, puis au bout d'un moment, quand j'ai fini de téléphoner, le dessin est fini aussi. Voilà, c'est quand on travaille en pilote automatique, et la main fait le travail tout seul, en fait, toute seule. D'être en... Voilà, et je pense que les sportifs cherchent ça aussi. Le samouraï, le zen, le geste parfait, enfin le vide total et puis le cerveau en pilote automatique. Je pense qu'il y a un peu de ça dans le côté hypnotisant du dessin, en fait, le côté la transe du dessin. C'est je sais pas après à quoi c'est dû, comment ça se met en route entre la routine des gestes, des micro-gestes qu'on fait et qu'on répète, et au bout d'un moment, on commence à penser à autre chose, et puis au bout d'un moment, on pense plus du tout à ce qu'on est en train de faire, et c'est là qu'on dessine le mieux.
Alors là, on a déjà parlé depuis près de 20 minutes, et par contre, pour quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler de toi, ben forcément, on parle un petit peu dans le vide, puisqu'il ne saurait pas mettre des images dans ce qu'il entend. Donc toi, je sais qu'on n'est pas forcément la meilleure personne pour parler de son propre travail, mais comment tu définirais en quelques phrases ton travail à quelqu'un qui ne serait pas en possibilité de le voir ?
Ouh là là ! C'est pour ça que j'ai donné ce nom bizarre à mon bouquin. C'était, ouais, je dessine des trolls, des chouettes et des crânes de rois morts. Bah, c'est de l'imaginaire, déjà, ça c'est certain.
On est plutôt dans un monde fantastique, inspiré de contes, légendes, de folklore.
Curieusement, non. c'est ça qui est fou, en fait. C'est parce que j'ai vachement de mal à... j'ai plein de bouquins. J'ai des tonnes de bouquins sur, justement, la mythologie, le folklore, des livres d'art, des contes. Je suis blindé de ça, et en fait, je ne les ouvre jamais. C'est juste pour les avoir autour de moi, en fait. Je suis content de les voir, et je suis content de les avoir. Et quand je les ai ouverts, je me suis dit, oh, ça, c'est un truc qu'il faut, ça pourrait me servir, je vais l'acheter. Et en fait, je ne les ouvre absolument jamais. Du coup, je ne vais pas chercher les histoires. J'illustre pas d'histoire en particulier ou de lieu en particulier. C'est assez bizarre. J'essaye toujours de tout, un peu comme j'avais une caisse de Lego, et à chaque fois, j'ai tout démonté et j'essaie de tout remonter et de refaire avec les mêmes briques, mais de refaire un truc légèrement différent. C'est effectivement lié à ça, et c'est pas exactement. Je vais pas chercher une référence en particulier, par exemple, là c'est tel conte que j'ai illustré, c'est assez... Alors de temps en temps je le fais, par exemple quand je fais la maison de Baba Yaga, voilà, ça m'arrive d'en faire une de temps en temps parce que je trouve ça rigolo à faire. Et là effectivement, c'est évidemment directement de l'influence, c'est du folklore, Et quand je fais un troll, oui, évidemment, c'est aussi du folklore, mais le troll, il fait pas un truc en particulier par rapport à telle histoire.
Oui, il n'y a pas une référence, c'est pas référencé par rapport à un conte, une légende ou un mythe.
Voilà, je préfère laisser les gens faire ce travail-là. C'est le boulot des gens, après, de voir ce qui peut se passer dans l'image. C'est ce que je préfère faire aussi quand je vois une image, c'est que je préfère me bâtir l'histoire moi-même et faire courir mon imagination dessus. Et j'aimerais bien que les gens fassent la même chose. Sinon, je m'amuserais à faire à des vikings qui ont la gueule de Travis Fimmel, je ne sais plus l'acteur de Vikings.
Oui, oui, c'est ça, Travis Fimmel.
Voilà, je, avec la même coupe de cheveux, je ferais des Lagartha qui combattent des dragons, et des dragons qui auraient la gueule des dragons de Game of Thrones de préférence, etc., etc. Et là, c'est évidemment... Tu tapes dans Pinterest ou DeviantArt, t'en as 3000 qui tombent, et ça, c'est surtout ce que je veux pas faire. Donc à chaque fois, j'essaie de rien regarder et d'essayer de sortir ça de ma tête. Et évidemment, c'est rarement réussi, mais j'essaie de... Au moins, ça vient de ma tête, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que j'essaye de parler d'imaginaire, en fait. Oui, effectivement, de folklore, de contes de fées, même de grosso merdo, de fantasy en général, mais en étant le moins référentiel possible, quoi.
On pourrait parler d'une espèce de diégèse, en fait, qui est liée peut-être à tout ce que j'ai dit, de folklore, notamment du Nord, etc., mais... Que tu as transposé dans un univers qui t'est propre. C'est vrai qu'en parcourant ton livre et en voyant un peu l'essentiel de ce que tu as pu produire, on ne trouve rien de vraiment référencé à part parfois le titre du dessin.
Ouais.
Quand je regarde Merlin, par exemple, ou Merlin 2,
ouais,
je ne vois pas les Merlins que j'ai déjà pu voir représentés avant. C'est autre chose.
Ouais, c'est le but. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est du fanart. Ça devient référentiel, quoi. Après mon Merlin, il vaut ce qu'il vaut, mais au moins c'est le mien.
Bah c'est ça qui fait son intérêt, justement.
Ouais.
Et c'est ça qui fait de toi en réalité justement un artiste plutôt qu'un artisan. T'as parlé du fan art et tout ça. Les fan artistes sont des artisans. Ils reproduisent quelque chose qui existe avec une technique. Et l'artiste, il produit du contenu inédit, on va dire.
Ah ouais.
Je t'ai pas invité pour débattre avec toi du statut de l'artiste, hein, mais...
Mais je comprends. Non, mais par exemple, quelqu'un qui fabrique des bijoux, il va créer des pièces qui ont évidemment, qui sont référentielles au niveau d'une thématique ou d'un style ou d'une époque, mais il va créer des pièces uniques qui sont faites... voilà, c'est lui-même qui va dessiner les bijoux, les formes, qui va ensuite les travailler, etc. Mais ça reste un artisan. Parce que je crois que c'est une histoire de fonction, en fait. Comme je travaille en grande majorité pour de la commande d'images, forcément, l'image a une fonction et elle n'est... Donc, il n'y a qu'une petite partie de ce que je fais, en fait, qui pourrait être qualifiée de travail d'artiste, et puis le reste comme travail d'illustration, parce que l'image que je produis a une fonction, vu qu'elle est là comme outil de communication, en fait.
Oui, qui pour le coup était imposé par la commande.
Voilà. Du coup, majoritairement, je fais de l'illustration et de temps en temps, effectivement, on pourrait considérer que je fais du travail d'artiste. Et du coup, comme les deux se mélangent dans ma tête, c'est pas parce que je fais les deux à peu près de la même façon. Pour moi, je fais toujours que de l'illustration. Voilà. Bon, c'est vraiment pour chipoter.
Alors, on va essayer de suivre un peu ton parcours de manière chronologique, parce que c'est très intéressant de voir ton parcours, hein, des débuts jusqu'à maintenant. Alors, ton parcours, même de vie, hein, il commence en 1970 à La Rochelle. Donc, c'est la jolie petite ville du sud-ouest de la France.
Oui.
Tu as passé ton enfance là-bas au bord de la mer. D'ailleurs, petite anecdote vis-à-vis de La Rochelle. Hein, je suis allé en colonie de vacances à La Rochelle pour faire de l'optimiste.
Ah.
Et je me suis perdu en mer.
Ah, bravo.
Et avec un autre gamin. Et j'ai eu très, très peur et j'ai plus jamais osé remonter dans un optimiste après.
Ah oui, mais ça fout les jetons, hein, quand on est loin.
Alors, finalement, on s'est fait récupérer, mais on est resté facilement une heure et demie perdu avec rien à l'horizon. Ça fait flipper. Hein.
J'aime pas trop, je suis pas trop fan de la mer. Hein. Donc, à partir du moment où j'ai plus pied, je suis sûr qu'il y a Cthulhu au fond. Il y a des saloperies toutes froides qui sont au fond. Et
Avec des tentacules.
Ouais, mais l'immensité de l'océan me fait flipper. Hein, quand je fous les pieds sur un ferry et que je regarde au bord, et surtout la nuit, et que tu vois que cette espèce de... Tu te dis, putain, mais il y a combien de dizaines de mètres sous le bateau. Et ça, sur des millions et des millions de kilomètres carrés. La mer, ça fait flipper.
C'est amusant parce que tu anticipes ma question qui était de savoir, ben, pour quelqu'un qui est né au bord de la mer, être tellement fasciné par peut-être la montagne, la forêt, c'est peut-être un peu curieux. Et moi qui suis né dans un endroit avec de la forêt et de la montagne, moi j'adore la mer au contraire. Tu vois, je suis plongeur, j'adore être sur un bateau. Est-ce qu'on ne cherche pas finalement ce qu'on n'a pas à proximité?
Oui, et puis c'est tout à fait possible. Mais maintenant que je suis à l'orée dans un petit village entouré de forêts, bon, au final, enfin, je dessine pas pour autant des bateaux, quoi. Et non, je suis là où je voulais être, en fait. C'est parce que je me suis toujours un peu fait chier à La Rochelle. Bon, déjà parce que je suis pas voileux, j'ai absolument aucun intérêt pour la mer. J'ai dû arrêter d'aller à la plage. Je sais pas, la dernière fois que j'ai foutu les pieds à la plage, c'est peut-être en fin des années 80, début 90, quoi. Mais vraiment parce que j'étais obligé. Sinon, j'y foutais plus les pieds. La ville en elle-même m'intéresse. C'est pas moche, hein, du tout. Hein. C'est une très belle ville. Hein. Il n'y a pas de souci. J'encourage tout le monde à aller faire un tour à La Rochelle. Hein. Mais voilà, enfin, c'est très touristique. Puis le vent, j'en ai ras le cul du vent. Je déteste le vent et les portes qui claquent. Donc, j'en pouvais plus. La pluie, je m'en fous, mais le vent, c'est insupportable. Vraiment. Et puis, trop de soleil aussi, trop de chaleur. C'est vraiment une ville ensoleillée. Je suis parti, je suis resté 40 ans à La Rochelle, je n'étais pas particulièrement parti pour partir. Il y a certains événements qui ont fait que j'ai quitté La Rochelle, mais dans ma tête, j'ai toujours voulu partir, j'ai toujours voulu être ailleurs. Et être ailleurs, ça voulait dire être aussi dans un autre climat, dans un autre décor. Et c'est forcément toutes les les forêts que j'ai pu dessiner pendant toutes ces années, enfin pendant les 40 premières années de ma vie, elles étaient vraiment dans ma tête, quoi. Elles étaient totalement fantasmées. Et je suis assez content par la suite d'avoir pu aller plus souvent en forêt, vraiment foutre les pieds en forêt, sentir la mousse sous mes chaussures.
Sous tes pieds nus.
Pieds nus, oui, si, je l'ai fait. Ouais, ça, je l'ai fait en Angleterre, ça. Là, pieds nus sur la mousse, c'est très agréable. Ça défatigue énormément. Hein. Je conseille à quiconque de le faire, d'ailleurs, après plusieurs heures de marche, d'enlever ses godasses et de foutre ses arpions sur de la mousse fraîche. Ça fait un bien fou.
Sur l'humus, des feuilles mortes qui se décomposent.
Bon, ouais, faut avoir les pieds propres.
Hein. On est dans un délire New Age, là, carrément, là, tu vois.
Non, voilà, ouais, j'ai toujours voulu être ailleurs, quoi.
Ta bio mentionne comme première expérience d'illustrateur la création de l'artwork du groupe Somberness. Alors, ce groupe, c'est le tien, tout simplement. Alors, je vais te laisser m'en parler, hein, bien sûr, hein, pour que tu me racontes ce que tu faisais, la musique que vous faisiez, et aussi pourquoi et de quelle manière ces deux aspects-là, en fait, de ta vie artistique. Alors, je sais le problème que tu as avec le mot artiste, hein, mais je n'ai pas d'autres mots, là. Le dessin et la musique qui sont nés, sont développés, ben, grosso modo, en même temps.
Ouais, alors ben, le dessin, c'est depuis que je tiens un crayon, hein, de toute façon. Ça, j'ai commencé à dessiner pour les autres en primaire. Hein, donc, quand je faisais déjà de l'échange de dessins contre du. Contre de divers services. Mais ça remonte à, voilà, je crois que les premières fois que j'ai commencé à faire, c'était des, je sais pas si tu te souviens, mais enfin, t'as déjà regardé le générique de Goldorak ?
Bien sûr.
Ok, donc tu vois qu'à un moment donné, il y a une espèce de plan de coupe, un peu en blueprint du robot, je sais plus si c'est genre le générique de fin ou le générique du début, où t'as des plans, et les Japonais sont très friands de ça, pour tout ce qui est robot géant, t'as toujours des vues en coupe avec toute la mécanique intérieure. T'es la moitié avec l'armure et l'autre moitié et sans rien, et tu vois, ça fait un écorché, en fait. Et donc, je m'étais amusé, en fait, donc j'avais, donc c'était en 78, donc c'était sorti en été 78, donc je m'amusais à dessiner la vue en coupe comme ça du Goldorak avec tous les petits mécaniques, tous les petits mécanismes à l'intérieur, avec le siège du pilote et tout ça. Et en fait, comme j'en avais fait un, et puis ben, un camarade de classe m'avait demandé d'en faire d'autres, et donc je faisais des plans de coupe comme ça à la chaîne pour tous les gens qui le voulaient, et puis en échange, je récupérais soit un crayon. Donc ça a commencé.
Ah, c'est génial. T'en as encore ?
Ah non, j'ai fait ma première BD aussi, d'ailleurs, après avoir regardé le premier épisode de Goldorak. Donc c'était juillet 78, et j'ai tout de suite fait ma première bande dessinée, en fait. C'était évidemment un combat contre un Golgoth. Mais non, j'ai absolument rien gardé de mes... J'ai détruit tout ce que j'avais fait quand j'étais gamin.
Je peux t'en commander un de Goldorak
Ouais, ouais, mais bon, là, ça ne sera pas contre un crayon. Mais... non, mais... oui, donc voilà, c'était... j'étais traumatisé par Goldorak, hein, comme tous les gamins qui ont vu ça à l'époque. Mais bon, voilà, c'était entre guillemets, mais c'était la première fois où tu commences à te faire remarquer comme lui dessine son modèle. Donc t'en as en général sur une classe de 25, t'en as un ou deux. Ça, c'est pour dire, enfin pour tous les gens qui considèrent qu'ils sont artistes ou une arme artistique parce qu'ils font de la tablette lumineuse ou du montage sur Photoshop. Non, des gens qui dessinent son modèle et qui dessinent comme qui ont le dessin comme besoin impérieux, sans qu'on leur demande, et par un besoin totalement inconscient, besoin de dessiner, des gamins comme ça, t'en as un sur 20 à peu près. Donc, ça ne fait pas une énorme partie de la population, parce qu'il y en a beaucoup qui ne dessinent pas, parce que, qui ont ce besoin, mais qui ne le font pas, qui ont ceux qui dessinent, et puis qui, au bout d'un moment, s'arrêtent. Surtout les gamins dessinent, au bout d'un moment, s'arrêtent. Tous les gamins chantent et dansent, et au bout d'un moment, s'arrêtent, parce qu'ils prennent conscience du regard des autres. Et ça les... Après, bon, bah,
ça les inhibe.
Ça les inhibe. Et il y a ceux qui continuent de dessiner. Et même si, même à des âges ou à des moments où c'est pas forcément une bonne chose, parce qu'on commence à se faire remarquer, mais pas forcément dans le bon sens. Donc voilà, donc il y a beaucoup de filtres qui se, au fur et à mesure des années, des années de vie, il y a beaucoup de filtres qui font qu'au bout d'un moment, arriver à une vingtaine d'années, passer une vingtaine d'années, même à l'âge un peu plus tard, à l'âge adulte, il y a de moins en moins de gens qui dessinent. Ouais, c'est quelque chose que t'as dans le cul en fait. Hein. C'est pas quelque chose qui vient. Tiens, je me suis mis à dessiner à 16 ans en prenant des cours, en achetant la méthode Atlas tous les mois avec le petit plumier, avec les crayons et tout ça. C'est pas comme ça que ça marche, quoi. Il faut avoir ça dans le cul dès le départ. Bref, donc j'ai continué comme ça. Et en fait, le premier dessin de commande que j'ai fait, c'était en 86. C'était pour un restaurant, pour illustrer les menus. Et j'ai été payé. Donc, mon premier contrat, c'était ça. Mais voilà, donc pour en revenir à Sombernes, en fait, on était un groupe de Ardos, hein, à La Rochelle. On n'était pas très très nombreux. J'ai fait leur connaissance un petit peu par hasard. Enfin, je savais qu'il y avait... bande de Ardos sur La Rochelle qui traînait, que je croisais de temps en temps, parce que quand je traînais avec des punks, les Ardos et les punks de La Rochelle s'entendaient pas trop mal. Il y avait un bar qui acceptait les Ardos à La Rochelle. Et donc j'ai fini par traîner dans ce bar-là, et puis au fur et à mesure, un pote qui avait une voiture, il m'a dit « Bah écoute, tiens, je vais t'emmener, il y a machin et truc qui répètent, ils font un groupe, donc je suis allé voir, j'ai commencé à regarder, à venir voir leurs répétitions, et au bout d'un moment, ils ont fini par avoir une formation, une réelle formation, plutôt que juste trois potes qui s'amusent à faire des reprises. Et là, ils avaient commencé vraiment avec un gars de Rochefort, enfin Rochefort c'est le petit patelin à côté. Et ils ont commencé à faire des reprises de groupes de def. Et justement, la première qu'ils faisaient, c'était Zombie Ritual. Bref, je les ai regardés jouer, et puis c'était le guitariste qui chantait. Et bon, au bout d'un moment, je sais pas quoi, ils m'ont dit, bah, tu veux pas essayer? Et puis bon, bah, je me suis jeté à l'eau. Et puis, on dit, bon, ben, écoute, on va continuer, hein, si tu veux.
On est en quelle année, là? T'avais quel âge?
J'avais 19 ans. Donc, c'était fin 89. On a fait que des reprises. Alors, c'était Def, Pestilence, Morgoth, Napalm Death. Et au bout d'un moment, on a commencé à composer, en fait. Et là, on a fait rapidement 4 titres, puis une démo... Il a fallu trouver le nom du groupe. Alors au départ, le groupe s'appelait Catacombe. Donc, il m'a demandé de faire un logo. Donc, j'ai fait un logo Catacombe. Alors je sais... Il savait en fait que je dessinais... c'était un peu... Je ne sais plus par quel biais. Je crois que c'est parce que je dessinais des t-shirts. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas avoir de t-shirts de groupe. On n'arrivait pas à en avoir. Du coup, on blancotait nos t-shirts et les t-shirts et les blousons. Et donc ça doit être par rapport à ça, parce que j'ai dû me faire un t-shirt de Morbid Angel comme ça, en fait. Je sais plus à quel concert on a rencontré les mecs de Catacombe, l'autre groupe Catacombe, et qui nous ont dit « c'est con, nous on s'appelle déjà Catacombe et on était formés avant vous ». Et on s'est dit « merde, on va changer de nom alors ». Puis j'ai cherché, j'ai dit Sombernes, c'était... J'ai suggéré ça, ils m'ont dit ouais, c'est cool, on le prend. Et donc j'ai refait un logo. Et puis après, qu'on en a fait une démo, il a fallu faire une pochette. Bon, alors j'ai fait une pochette. Et donc voilà, bon, c'était un peu le taf que j'avais là-dedans, c'était chanter, écrire les paroles, et faire l'identité graphique du groupe. Les fanzines qui recevaient la cassette avaient demandé, quoi, mais c'est qui vous a fait le logo et la pochette? C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des demandes de dessins pour illustrer, pour servir de cul de lampe, en fait, dans les fanzines.
Ça a créé aussi un petit peu le développement de ta carrière. Et donc, moi, je suis curieux de savoir de quelle manière ce développement s'est opéré. Est-ce que c'est un peu de fil en aiguille avec le bouche à oreille, etc. Ou est-ce que tu as quand même essayé de t'imposer, tu vois, à ton niveau en essayant de mettre en avant le fait que tu savais dessiner, que tu étais capable de fournir des artworks?
En fait, je décorais le tour de mes lettres et tout ça. Et c'est une manière un petit peu déguisée de dire, voilà, peut-être de porter l'attention sur quelque chose que je faisais sans trop le dire. Enfin, parce que bon, j'étais un peu... J'aurais été un peu mal à l'aise par rapport à ça. Et donc, du coup, voilà, ça a engagé la conversation. Puis au bout d'un moment, sur le sujet, au bout d'un moment, c'était, bon, bah écoute, ouais, tiens, bah, ça tombe bien, j'ai besoin d'un logo. Et bon, ça, c'est venu comme ça. Ça, et puis aussi les fanzines. Et puis je suis passé de client ou correspondant à celui d'artiste attitré. C'est à peu près ce parcours-là.
C'est sur ces mots que s'achève cette première partie d'entretien avec David Thierry, l'homme qui dessine des hiboux, des trolls et des crânes de rois morts, que vous retrouverez dans l'épisode 60 du Secret des Dieux pour la suite et fin de notre conversation. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, vous êtes dans Le Secret des Dieux.